Je réponds d'abord tout de suite à deux questions posées. Peut-on dire qu'il y a divers degrés d'être, le ceci du ceci, le ceci du ceci est étant plus ou moins actué par l'être. L'homme, grâce à son âme spirituelle, aurait plus d'être que l'animal, le végétal ou le minéral. Peut-on dire que ce qui est n'existe pas univoquement, confère l'être position de Kant, sur analogiquement ou plutôt pros en. Pas très clair, hein, mais je vais essayer d'expliquer. Il me semble qu'on veut tout simplement préciser, savoir s'il y a des degrés d'être par rapport aux diverses réalités. C'est bien évident qu'il y a des degrés d'être différents par rapport à l'animal, le végétal, le minéral et l'homme. Il y a des degrés d'être plus ou moins forts. Par le fait même, l'acte d'être, l'acte d'exister, se trouve selon des modalités différentes dans l'homme, dans l'animal et dans les réalités purement végétales. C'est le propre de l'analogie de l'être, du reste. Toutes ces réalités existent. Pierre en tant qu'homme existe, tel animal en tant que vache existe, tel arbre existe, chacun ils existent, mais selon des modalités différentes. Et ce sera justement le problème de l'acte d'être, l'acte d'exister qui se trouvera selon des modalités différentes. L'acte d'être se trouve diversement dans les diverses réalités. Il se trouve diversement dans ces diverses réalités. Donc, peut-on dire que ce qui est n'existe pas univoquement? Il faut préciser. Ce qui est en tant que vous le prenez comme une réalité, comme un fait d'exister, il est. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire qu'il existe univoquement, ça n'aurait pas de sens. Mais en tant que vous le comparez aux autres, vous direz, il y a telle réalité qui existe, il y a telle autre réalité qui existe et telle autre réalité qui existe. Alors, dans sa comparaison aux autres, vous pouvez dire qu'il y a des degrés différents d'actualité de l'être. Vous voyez ? Donc, il y a deux considérations différentes. Et je crois que c'est ça qui fait que ce n'est pas très clair. Il y a deux considérations différentes. Quand vous regardez le fait d'exister, mais le fait d'exister, c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est le to-oti d'Aristote. On constate qu'il existe une réalité. Cette réalité existe. Elle existe et puis c'est tout. Elle est. Vous n'allez pas vous demander si l'être de cette réalité est univoque. Ça n'a pas de sens. L'univocité, c'est par rapport à l'attribution. L'analogie, c'est par rapport à l'attribution. La réalité, en tant qu'elle existe, elle existe. Est-ce que vous existez, vous, plus que votre voisin? Mais ça n'aurait pas de sens de dire « j'existe plus que toi ». Est-ce que vous pouvez dire « j'existe plus que toi » ? Vous ne pouvez pas le dire. Vous existez, c'est tout. Mais vous pouvez dire « je vis avec une intensité plus grande que toi ». Surtout si votre voisin à côté s'endort. Alors vous pouvez dire, je vis avec une intensité plus grande que toi. J'essaie de comprendre avec une intensité plus grande que toi. J'essaie d'aimer avec une intensité plus grande. S'il y a une intensité plus grande de vie, puisque pour l'homme, être, c'est vivre, il y a une intensité plus grande dans l'ordre de l'être. Oui. Et parmi toutes les réalités qui existent, il est bien évident que l'être humain est la réalité la plus parfaite. C'est l'être le plus parfait dans l'ordre de l'exister. C'est lui qui existe de la manière la plus parfaite. C'est ce que Heidegger essaie d'exprimer par le Dasein, quand il montre que c'est vraiment dans l'homme que, de fait, l'existé est le plus parfait. C'est dans l'homme que l'existé... C'est pour ça qu'en métaphysique, on terminera la métaphysique en regardant le problème de la personne humaine. C'est dans la personne humaine prise concrètement que je vois que là, l'existé est le plus parfait. Notre existé d'homme est plus parfait que l'existé de l'arbre. C'est bien évident. Notre existé d'homme est plus parfait que l'existé du minéral. Il y a une manière d'exister qui est plus grande. Alors, si je compare ces diverses manières d'exister, je dirais que l'exister existe selon certains degrés différents, selon une certaine hiérarchie. Tandis que si je regarde simplement telle réalité qui existe, je dis, elle existe. C'est tout. Vous voyez bien, j'espère, les deux considérations. Le fait d'exister et puis les diverses manières dont la réalité existe. Et elle existe selon des modalités plus ou moins parfaites. Autre chose, ne peut-on pas voir une certaine similitude entre l'exis, donc l'habitus, et la valeur? Toutes les deux, en effet, impliquent quelque chose de la causalité formelle et quelque chose de la causalité finale. Oui. Je vois le problème. Si je prends l'exis, donc l'habitus, la qualité par excellence, je dirais la qualité par excellence, elle qualifie l'homme, puisque de fait l'habitus c'est pour l'homme. Elle qualifie l'homme. Elle qualifie l'homme intelligent. Si je prends l'habitus de sagesse. Il qualifie l'homme intelligent. L'homme intelligent possède la sagesse. Et en plus, possédant cette habitude de sagesse, il est capable de contempler. Donc il est ordonné par la contemplation. C'est en ce sens-là que je peux dire que l'exis à la fois qualifie et est ordonné vers la contemplation. C'est très vrai. La question de valeur, la notion de valeur, est une notion moderne. Les anciens ne parlaient pas de valeur. La valeur est entrée en philosophie par toute l'étude de la féminologie. Il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est très difficile de mettre une comparaison entre les deux. Parce que, de fait, on est dans deux perspectives très différentes. Donc il ne faut pas faire trop vite un éclectisme. Il faut d'abord regarder bien comment est née cette notion de valeur. Comment est née la position de l'exis. C'est important de les mettre en parallèle. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut les mettre en parallèle. Mais ne faisons pas d'éclectisme. La notion de valeur est née dans une philosophie qui avait perdu complètement le sens de la causalité finale. Et je crois que la notion de valeur s'est réintroduite en phénoménologie pour retrouver quelque chose de la causalité finale. Un être valorisé, un être qui possède telle ou telle valeur, parce que il a possibilité de pouvoir s'ennoblir. La valeur exprime quelque chose qui serait beaucoup plus proche de la causalité exemplaire. C'est dans ce sens-là que la valeur exprime d'une manière subjective la causalité finale. Mais d'une manière subjective, pas d'une manière objective. La valeur implique toujours quelque chose de subjectif du sujet. C'est né dans une philosophie qui avait perdu le sens de la réalité. C'est pour ça que je n'emploie pas beaucoup le mot valeur. Je comprends qu'il faut l'employer de temps en temps pour rejoindre la pensée moderne, mais la notion de valeur n'est pas une notion d'analyse au plan philosophique. C'est beaucoup plus du côté de la causalité exemplaire et du côté de l'exercice. C'est beaucoup plus du côté de l'exercice. La valeur, c'est lorsque je suis capable d'atteindre telle ou telle réalité, ou plus exactement, que je suis capable de réaliser telle ou telle opération. Alors, je suis valorisé. Il y a un jugement d'estimation sur quelqu'un qui est capable d'atteindre cette qualité. Alors, étant capable d'atteindre cette qualité, il est valorisé. Il a cette possibilité d'atteindre cela. Oui, donc, il a une certaine qualité. Alors, je suis tout à fait d'accord que la valeur implique une certaine qualité, un certain habitus. Et cette qualité, elle est ordonnée vers le point de vue de la finalité, la contemplation. La valeur, elle, regarde le point de vue de la cause exemplaire. Ce n'est pas la fin, directement. Maritain a essayé, dans son éthique, d'introduire les valeurs. Ceux qui intéressent peuvent regarder dans Maritain, dans la manière dont Maritain regarde l'éthique, il introduit des valeurs. C'est difficile, parce que je crois qu'en éthique, il faut comprendre le point de vue d'Exis, donc les habitus, les vertus. Mais je n'identifierai pas vertu et valeur. Parce que la vertu est essentiellement comprise d'une manière objective et par rapport à la finalité, alors que la valeur est comprise d'une manière subjective. Et donc il y a deux perspectives différentes, qui encore une fois ne s'opposent pas. Il faut essayer d'intégrer ce qu'il peut y avoir de juste dans la pensée moderne. Mais il ne faut pas faire un éclectisme. Il faut essayer de comprendre qu'en effet, quand j'ai telle ou telle vertu, j'ai la vertu de sagesse. C'est la suprême valeur. Je pourrais très bien dire ça. L'habitus de sagesse, c'est la suprême valeur. Mais quand je dis ça, c'est la suprême valeur, vous voyez, je ne dis pas exactement ce que c'est que l'habitus de sagesse. L'habitus de sagesse pris en lui-même, c'est en vue de la contemplation. Quand je prends l'habitus de sagesse en disant c'est la suprême valeur, je vois l'habitus de sagesse en tant que cet habitus me qualifie, m'ennoblit par rapport aux autres choses et me permet d'être un ouvrier qualifié. Mais quand on dit un ouvrier qualifié, ça c'est la valeur. C'est pas la qualité, c'est un ouvrier qualifié. Il est qualifié dans son métier, il est qualifié dans son exercice. C'est pour ça que la valeur est toujours liée à l'exercice. Tandis que l'habitus regarde au point de vue de la contemplation. Regarde le point de vue de l'objet ou de la finalité. Oui, alors là, il y a tout un problème, il faudra le regarder. Je regarderai plutôt du côté éthique. C'est beaucoup plus du côté éthique, je crois, qu'il faut vouloir assumer la valeur que du côté métaphysique. Du côté métaphysique, c'est très très difficile. Tandis que du côté éthique, on le peut parce qu'on est du côté de l'opération. Oui. Alors évidemment, c'est par l'exis qu'il y a un lien entre l'ontologie, la métaphysique et l'éthique. C'est sûr, c'est par là. Alors nous allons continuer, si vous voulez, à entrer, après avoir montré rapidement une petite topique historique sur l'être en acte et l'être en puissance. Après vous avoir rappelé ce que Heidegger disait sur l'énergeia et l'entelecheia à propos d'Aristote. J'espère que vous l'avez suffisamment digéré, n'est-ce pas ? Et que maintenant vous voyez bien la position de Heidegger sur le problème de l'acte et de la puissance. Nous allons donc maintenant reprendre le problème à sa racine. Comment pouvons-nous saisir cette distinction si importante de ce qui est, donc en définitive l'homme, divisé ce qui est en être, en acte et être en puissance. Si nous sommes attentifs à ce que Heidegger dit, si nous sommes attentifs à Aristote, je prends exprès les deux, si nous sommes attentifs à Heidegger et à Aristote, nous pouvons, dès le point de départ, nous dire que la saisie de l'être en acte et la saisie de l'être en puissance, c'est quelque chose d'absolument capital. Nous touchons là le sommet de toute la recherche de la philosophie première, de toute la métaphysique. Il s'agit donc de bien le faire. Parce que je crois que c'est capital. Je crois qu'en effet, que c'est vraiment très important de redonner ce sens, c'est-à-dire de redécouvrir la signification profonde de l'être en acte et de l'être en puissance. Pas seulement rester, vous voyez, devant une distinction qu'on répète, une distinction qu'on a apprise par cœur pour les examens, mais saisir profondément en moi-même toute la métaphysique. Je vous ai déjà dit, le laboratoire métaphysique, c'est nous. C'est l'avantage, c'est qu'on le transporte partout. Donc je peux faire toujours de la métaphysique. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de matériaux, il suffit que je m'interroge. Il suffit que je me regarde d'une façon philosophique et métaphysique. Comprendre ce que représente l'être en acte et l'être en puissance en moi-même. Alors, commençons toujours, quand il s'agit d'un problème métaphysique, comme c'est difficile, commençons d'abord par le langage. Voyons comment le langage pose le problème de l'être en acte et de l'être en puissance. Je dis bien pose le problème, c'est-à-dire uniquement au niveau d'un signe. Je peux en effet comprendre la place dans le langage du verbe. Le nom et le verbe. Toute la métaphysique de la substance fonde le langage du nom. La substance joue le rôle de sujet. Elle implique la fonction de sujet. Mais le langage montre qu'à côté du nom, il y a le verbe. Or, la métaphysique de la substance ne rend pas compte du verbe. Le verbe est autre chose. C'est tout à fait différent. Surtout si vous prenez le verbe poussé dans ce qu'il a de plus simple. Et quand je dis Pierre est, existe. Quand je dis ça, Pierre existe, je vois bien que le verbe est tout entier relatif au nom. C'est très curieux, c'est un fait. Le langage donne l'absolu à la substance. Le langage donne l'absolu à la substance. Il faudrait essayer de comprendre ça. Pourquoi? Pourquoi, de fait, le langage donne l'absolu à la substance? Il faudrait regarder dans les différentes langues si c'est toujours cette même partage entre le nom et le verbe. Ça n'a pas d'importance, les langages peuvent être différents et la métaphysique est la même. Puisque le langage n'est qu'un signe. Je ne fais pas la métaphysique du langage. Ou plus exactement, ma philosophie n'est pas une philosophie analytique du langage. Si ma philosophie était une philosophie analytique du langage, vous voyez, ce serait terrible. Parce que dans certaines langues où le verbe être n'existe pas, je serais coincé. Je dirais donc, voyez bien, il n'y a pas de métaphysique. C'est pas vrai du tout. Ce que je peux dire, ce sont des langues qui insistent avant tout sur l'action. Pierre marche. Ça, je crois que c'est dans toutes les langues. Parce que dans toutes les langues, il marche. Donc, Pierre marche. Tandis que je ne suis pas arrivé à abstraire, dire Pierre est marchand. Il est dans cet état particulier qu'il marche. Et alors, je suis arrivé à extraire un verbe qui n'exprime plus l'action, mais exprime quelque chose de très particulier qui exprime un état. Et c'est le passage de l'action à un état. Et ça, c'est quand même très important que le langage exprime cela, exprime cette chose particulière. Il exprime le nom, donc la substance, Pierre, la substance première, Pierre, le sujet, auquel est attribué telle ou telle opération, Pierre marche, Pierre travaille, Pierre mange, Pierre dort. Ça exprime une action ou la cessation d'une action. Pierre se repose. Il se repose toujours. Quand je dis ça, je qualifie la manière particulière dont il se trouve. Donc, je montre qu'il y a une opération particulière qui vient s'ajouter à Pierre, dont Pierre peut être le sujet. Et puis, je peux dire, Pierre existe. Pierre est. Pierre existe, Pierre est. J'exprime par là un état. Ce n'est plus seulement l'action, c'est autre chose. Il est. Mais c'est toujours relatif au nom. Voilà la première constatation que je peux faire, très simplement, dans le fait du langage. Je vois donc que le langage pose un problème. Le problème de ce qui vient s'ajouter au nom. Qui vient s'ajouter au nom et qui est irréductible au nom. Quand je dis Pierre ou quand je dis Pierre travaille, c'est deux choses différentes. Quand je dis Pierre existe, il est, ou quand je dis Pierre peut exister, c'est pas la même chose. Il y a une signification différente. Et c'est toujours relatif à Pierre. Donc, selon le langage, il y a quelque chose qui vient s'ajouter. La substance est bien première. Selon le langage. Et vous voyez, nous avons respecté le langage en voyant d'abord la substance. En essayant de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que la substance. Et maintenant, nous voyons qu'il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Alors, comprenons bien que ce quelque chose qui vient s'ajouter vient transformer complètement le sujet. C'est pas simplement un accident. C'était un accident, je dirais, Pierre. Il est grand. Pierre est petit. Pierre est gros. C'est accidentel. Tandis que quand j'ai dit Pierre existe, je ne peux pas dire que c'est accidentel. Pour Pierre, c'est capital d'exister. Donc, c'est quelque chose qui vient modifier complètement le sujet d'une manière telle que le sujet, le nom, se trouve dans un état tout à fait différent. Il peut exister, il existe. Donc il est dans deux états totalement différents. Qu'est-ce que ça signifie cela? Que signifie ce fait que ce langage vient ajouter quelque chose qui modifie d'une manière tellement radicale le nom que le nom va de fait passer d'un état en puissance à un état actuel. Mais que signifie l'acte? Que signifie l'exister? Je crois que c'est la première chose que je dois me poser la question. Que signifie l'exister? Le langage me pose le problème du verbe et me pose le problème de ce qui est à la racine de tout verbe, cet état particulier d'un sujet qui est capable d'opérer. Qui est capable d'agir. un sujet qui n'existe pas, qui pourrait exister mais qui n'existe pas, il n'agit pas. Donc dans toute action est impliqué cet état d'exister. Pierre qui peut exister, je ne dirais pas dit, Pierre qui peut exister marche. Je dirais ça ne va pas du tout. Oui, il y a une expression alors au point de vue logique. Si je dis Pierre qui peut exister marche, je dirais à ce moment-là, le sujet Pierre qui peut exister non supponit, comme disaient les logiciens. Il est incapable de recevoir cet attribut qui est marché. Pourquoi ? Parce que marché implique exister. Je vois donc qu'il y a dans le langage tout simple, habituel, il y a ce fait que, au-delà de l'action exprimée par le verbe, il y a un état par où le nom est capable d'opérer, par où il est capable de recevoir telle ou telle attribution qui implique le point de vue de l'action. Et je peux peut-être aller un peu plus loin, parce que ce n'est pas seulement le fait d'être capable, mais d'être source. Quand je dis Pierre marche, je dis Pierre, c'est lui qui est source de sa marche. Quand je dis Pierre travaille, c'est Pierre qui est source de ce travail. Et donc, s'il est capable de travailler, s'il est capable de marcher, il existe, et c'est grâce à son existence qu'il est capable de travailler. Tandis que si je dis Pierre peut exister, il ne travaille pas. Il est incapable de travailler. Je vois donc que cette attribution exister, être, va modifier radicalement le nom. Il ne s'agit donc plus uniquement de quelque chose qui vient s'ajouter comme un accident, comme une qualité, comme un ennoblissement. Il s'agit de quelque chose qui va atteindre le nom d'une manière telle que ce nom devient source d'activité, alors qu'autrement, il n'est pas source d'activité. Je crois qu'il est important, vous voyez, de comprendre dans le langage ces deux aspects. Le verbe est relatif au nom, et le verbe est relatif au nom d'une manière telle qu'il le transforme complètement. Mais il le transforme complètement. Troisième considération, il le transforme complètement. Attention, il ne change rien à sa signification. Alors là, c'est le gros problème. C'est le gros problème sur lequel on reviendra constamment. Il ne change rien à sa modification. Pierre, c'est toujours Pierre qui a une certaine signification. C'est tel homme particulier que je connais. Il va de fait rien changer à sa signification, mais il va lui donner quelque chose très difficile à exprimer. Il existe ou il n'existe pas. Il est capable d'agir ou pas agir. Il est source ou pas agir. Et la signification n'est pas changé. Vous voyez comme ça relativise le problème de la signification. Parce que c'est vrai, c'est toujours Pierre qui a toujours la même signification. Il existe ou n'existe pas. Il y a donc quelque chose de beaucoup plus radical que le problème de la signification, qui est quelque chose qui fait que cette signification peut être capable de supporter telle ou telle activité, d'être source de telle ou telle activité. Et je l'exprime par le verbe être, par le verbe exister. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Jusque-là, nous avons vu le verbe être dans le sens de la signification. La substance, c'est dans l'ordre de la signification. Je me trouve soudainement en face d'un nouveau problème qui fait éclater complètement le problème de la signification. Le langage me montre cela, m'indique cela. Ça ne me donne absolument pas la solution. Je suis obligé de reconnaître que je suis en présence de quelque chose qui fait éclater la signification. La signification n'est donc pas le problème ultime et dernier. Alors, évidemment, quand vous dites ça, par rapport à la philosophie analytique, c'est terrible. Parce que pour la philosophie analytique, le problème de la signification, c'est le seul problème. Alors, vous devez montrer que même le langage montre que ce n'est pas ça. Oui, la philosophie analytique qui veut rester au niveau du langage, la philosophie analytique montre, Duplessis 1, le langage montre que la philosophie analytique n'est pas exhaustive par rapport au langage. Ça, je crois, très important par rapport au problème actuel de la philosophie analytique. Philosophie qui se veut du langage et qui n'exprime pas le langage. Et on comprend très bien pourquoi. C'est que le langage ne peut pas se comprendre uniquement par lui-même. Donc quand je veux comprendre le langage par lui-même, je n'explique même pas le langage.
Le langage ne peut s'expliquer que par celui qui s'en sert.
Le langage ne peut s'expliquer que par l'homme. Alors vous savez bien que dans la philosophie analytique, on ne veut pas regarder l'homme qui parle, on ne veut regarder que la parole. Alors il faut bien saisir que de fait, une philosophie qui veut être uniquement une philosophie du langage n'explique pas le langage. Parce que le langage ne peut pas s'expliquer par lui-même. C'est normal, c'est un être relatif. Tout être relatif, par définition, ne s'explique pas par lui-même. Il est trop débile. Un être trop débile ne s'explique pas par lui-même. C'est le propre du débile, c'est qu'il ne peut pas s'expliquer lui-même. Alors il faut qu'un autre l'explique. Et le langage ne peut s'expliquer que par la connaissance, que par l'intelligence. C'est celui qui connaît et qui s'exprime qui va m'expliquer ce que c'est que le langage. Alors à ce moment-là, on comprend très bien qu'il faut dépasser le langage pour expliquer comment, dans le langage, il y a quelque chose qui est plus que la signification, qui est autre que la signification, qui est un autre problème. Le problème du nom, c'est le problème de la signification. Le problème de la qualité, c'est le problème de la signification, mais le problème du verbe n'est plus le problème de la signification. C'est un autre problème. Alors, quel est ce problème? C'est le philosophe qui veut le dire. Le langage est là pour indiquer qu'il y a autre chose. Qu'il y a autre chose que j'explique pas directement. Bon, ça, c'est pour, comme toujours, hein, le langage est là uniquement pour être un signe. Il y a donc un nouveau problème qu'il faut essayer d'aborder. Et qu'il faut aborder d'une manière différente que le problème de la signification, que le problème de la détermination, que le problème de la substance. Comment aborder ce problème aujourd'hui ? Je suis en face non plus de Platon, mais je suis en face d'une philosophie hegélienne. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est face à la philosophie hegélienne, parce que je crois qu'on peut dire ce que Platon était pour Aristote, Hegel l'est pour nous. C'est-à-dire, c'est aussi difficile de dépasser Platon que de dépasser Hegel. Alors, il s'agit de comprendre comment la philosophie hegélienne confond et empêche de saisir ce quelque chose d'autre qui m'est donné dans le langage. Pourquoi ? Parce que la philosophie hegélienne confond être et devenir. Il y a un blocage entre les deux. Et ce blocage, il est dépassé par la démarche dialectique elle-même. C'est la démarche dialectique qui veut montrer le lien de l'être et du devenir, comment l'être est relatif au devenir et comment le devenir est relatif à l'être. Et comment on ne peut plus les séparer, incapable de les séparer, parce que l'être et le non-être s'incluent l'un dans l'autre. Et si l'être et le non-être s'incluent l'un dans l'autre, je ne peux plus distinguer l'être et le devenir. C'est donc la première démarche que je dois me rappeler, c'est que, de fait, je peux distinguer dans ma propre vie, en faisant appel à mes expériences, puisque c'est toujours à partir de nos expériences que nous revenons au point de vue philosophique. Je fais appel à mes propres expériences. Je m'aperçois que dans mes expériences, toutes mes expériences implique le devenir et l'être. C'est très vrai. Toutes mes expériences. Je n'ai jamais une expérience de l'être pur. Je n'ai jamais une expérience du devenir pur. Mes expériences aussi bien externes que mes expériences internes impliquent toujours ce lien entre le devenir et l'être. Vous voyez, je reprends l'expérience en comprenant ce blocage qui existe à l'intérieur même de l'expérience entre le devenir et l'être. Et là, je comprends très bien qu'une philosophie qui reste uniquement au niveau descriptif, qu'il s'agisse d'écrire mes expériences internes ou mes expériences externes, une philosophie qui reste uniquement au niveau descriptif, ne pourra jamais découvrir la distinction de l'être et du devenir. Je pourrais dire qu'il y a dans mes expériences plus ou moins de devenir, mes expériences externes étant plus liées au mouvement physique que mes expériences internes qui sont plus liées à mes opérations immanentes. Et donc mes opérations immanentes ont quelque chose qui va plus loin que le pur devenir physique. Il y a déjà dans les opérations immanentes, grâce à la vie et surtout à la vie spirituelle, quelque chose qui échappe au devenir. Parce qu'il y a quelque chose qui demeure, il y a quelque chose qui dure. La fameuse durée du vivant, n'est-ce pas, à laquelle Bergson était tellement attentif. Et c'est vrai, il y a la durée. Il y a la durée qui fait que je ne suis plus seulement dans le devenir. Tandis qu'au contraire, quand je suis dans un monde physique, le devenir semble toujours l'emporter. Et le devenir semble toujours être victorieux. Je puis donc déjà discerner. C'est intéressant à bien saisir. Je peux discerner qu'il y a des expériences physiques où le devenir l'emporte et des expériences internes où la durée l'emporte. Et donc, il y a quelque chose qui, au niveau de la vie, dépasse le devenir, va plus loin que le devenir. C'est déjà très important. Oui, c'est pour cela que Monod disait: la vie n'est pas dialectique. Je crois que c'est le premier moment que nous devons saisir face à Hegel. Que de fait, dans le vivant que je suis, il y a quelque chose qui échappe à la dialectique. Il y a la durée de mes opérations. Et la durée de mes opérations est donc quelque chose qui indique que le point de vue du devenir n'est pas adéquat à l'être. Il y a des réalités qui durent. Et ces réalités qui durent, au point de vue de l'immanence, de l'opération immanente, montrent bien qu'il y a quelque chose qui est au-delà du devenir. Ceci, c'est pour montrer que le point de vue de la dialectique hegelienne qui confond l'être et le devenir ne correspond pas à mes expériences internes. Mon expérience interne de l'intelligence et de l'amour vont au-delà de la dialectique, sont quelque chose qui ne peut pas être saisi par la dialectique, et donc exprime qu'il y a autre chose. C'est à partir de là que je peux découvrir qu'il y a en moi, en effet, des états différents au niveau de ma vie et au niveau de toute vie, puisque dans la vie, il y a un repos. Si dans la vie, il y a le phénomène du repos, et c'est propre au vivant, le vivant se repose. S'il y a dans la vie quelque chose qui est au-delà du devenir, et le vivant continue de vivre hein, quand il est au repos, mais il n'est plus dans le devenir, il est au-delà du devenir. Il y a donc possibilité de discerner à l'intérieur de mes opérations vitales deux états extrêmes, un état de repos et un état d'activité. Et c'est le même vivant qui est en repos et qui est dans l'état d'activité. Alors, ceci, la dialectique hegelienne ne peut absolument pas en rendre compte. La dialectique hegelienne ne peut pas rendre compte de ce que représente l'absolu. L'absolu, comprenez bien, l'absolu de cette distinction entre l'état du repos et l'état de l'activité. Il y a donc, dans le vivant qui est moi-même, puisque c'est toujours par rapport à moi-même, cette distinction que je peux faire au niveau de ma vie. Et je rejoins là la distinction qu'Aristote donnait, mais qu'il le donnait d'une manière peut-être un peu trop simple, le point de vue du repos et le point de vue de l'être qui dort et qui est éveillé. J'aimerais mieux dire l'être qui est au repos et l'être qui est en activité. C'est une manière, si vous voulez, qui rejoint plus ce que aujourd'hui on peut dire par rapport à l'expérience du vivant. Le vivant se repose. Je ne dis pas qu'il dort, je dis qu'il se repose. Parce qu'il y a des gens qui dorment et qui ne se reposent pas, n'est-ce pas ? Alors, il se repose. Donc, il se repose et il est en activité. Et le même vivant, et tout vivant, possède ces deux états. Tout vivant, absolument tout vivant, possède ces deux états. Donc, il n'y a pas l'amalgame de l'être et du devenir. Il y a quelque chose d'autre. La vie indique autre chose. La vie me montre qu'il y a quelque chose de très radical, qu'il faudra essayer de comprendre, l'être qui est au repos. L'être qui est au repos se refait. L'être qui est au repos est un être qui va être capable ensuite de repartir avec une nouvelle vigueur. Donc, il y a un ordre entre le repos et l'activité. Et l'être qui est au repos est pour qu'il soit en activité. Et nous constatons ça, si vous voulez, dans tous les ordres de vie végétative. Il y a l'hiver, le printemps. Alors là, on pourrait dire, mais il y a des régions tropicales où l'hiver n'existe pas beaucoup. Alors je dirais, bon, ça n'a pas tellement d'importance. On trouvera encore là des rythmes différents, parce qu'il peut y avoir des rythmes différents. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il existe ces rythmes-là. Même s'ils sont très amenuisés dans certaines manières de vivre, ils peuvent être très amenuisés. On peut trouver un vivant qui a très peu besoin de se reposer, mais il se repose quand même. Il y a une nécessité du repos. Il y a donc quelque chose de fondamental au niveau de la vie. Le même vivant connaît ces deux états extrêmes. Et il y a un ordre dans ces deux états. Et ceci me semble capital de le prendre du côté de la vie, parce que c'est du côté de la vie que je dois le voir. Ensuite, je puis, à partir de cette première expérience, essayer de reprendre une autre expérience du côté de l'intelligence. L'intelligence, c'est normalement ce qu'il y a de plus vital, ou au moins ce qu'il y a de plus conscient dans l'ordre de la vie. Le repos est inscrit dans la vie végétative. Je peux essayer de comprendre qu'est-ce qui est inscrit dans la vie proprement intellectuelle. Dans la vie intellectuelle, je vois qu'il y a en moi des capacités d'exercer certaines opérations. Et puis, il y a l'exercice proprement dit. Autrement dit, je peux posséder un habitus, ce qui est une capacité. Je revois l'habitus, l'exis, une capacité, et puis l'exercice de cette capacité. Et je vois que c'est la même capacité qui se retrouve dans deux états différents. Nous essaierons de voir ces expériences successives pour voir comment, à travers ces expériences successives, se pose le problème de l'être en acte et de l'être en puissance.